Point d'orgue. Une émission proposée par Jean Percy.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous de musique liturgique. Bienvenue sur Point d'orgue. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro. Nous allons aborder des nouvelles pièces de la musique liturgique et je l'espère des pièces qui vont vous plaire. D'ores et déjà, je commence par vous présenter mes plus vives excuses puisque la semaine dernière, ce n'était pas prévu au programme. Vous avez dû vous contenter, si j'ose dire, d'une rediffusion d'un des épisodes précédents. Je suis désolé, c'est dû un problème dans mon emploi du temps, et donc me voilà avec un petit peu de retard. Alors ce que je vais faire, c'est qu'aujourd'hui, je vais quand même vous faire part de quelque chose dont je voulais vous parler la semaine dernière, et après, bien sûr, on va avancer dans la suite. Évidemment, vous savez que j'essaie de coller au maximum au temps liturgique pour faire en sorte que la musique s'intègre parfaitement dans l'allée liturgique que vous viviez aussi avec moi. Donc voilà, il y aura un petit peu de retard sur un morceau, le premier d'ailleurs, je vais vous en parler tout de suite, donc veuillez m'en excuser, mais au moins comme ça vous fera un petit peu quelque chose à dire, et puis il y a de l'anecdote, donc ça pourra vous faire plaisir, je le pense. Voilà, alors on va commencer donc par Dimanche de l'Octave de Pâques. Donc là, on va faire comme si on était la semaine dernière, veuillez m'en excuser. Donc, ce Dimanche de l'Octave de Pâques, qui est le dimanche des surnoms. Alors, l'Octave de Pâques, ça vous savez, ça vient 8 jours après Pâques. On l'appelle donc le Dimanche de Pâques close, puisqu'il vient terminer cette Octave de Pâques. On l'appelle également Dimanche in Albis, sous-entendu dépositif, c'est-à-dire que les néophytes qui ont été baptisés durant la vigile pascale, 8 jours plus tôt, entrent à la messe vêtus de leurs habits ordinaires. Normalement, ils ont quitté le blanc qu'ils avaient gardé là pendant une semaine après leur baptême. Donc, il y a déjà une première signification ici, c'est l'entrée un petit peu presque normale de nos chers néophytes baptisés. Ça, c'est le premier. Ensuite, il y a un autre surnom, c'est le dimanche de Saint Thomas, bien entendu, puisque vous savez que c'est là où on lit l'évangile de Saint Thomas qui refuse de croire à la résurrection. Et puis, bien entendu, qui croit en ayant vu. Et enfin, le dernier surnom, celui qui nous intéresse le plus et le plus anecdotique, c'est que c'est le dimanche de Quasimodo. Alors ça, je ne sais pas si vous le saviez. Pourquoi on appelle ce dimanche Quasimodo? Et surtout, pourquoi est-ce que c'est devenu extrêmement célèbre? Naturellement, vous pensez à Victor Hugo. Sauf qu'en fait, ça ne vient pas de là. Ça ne vient pas de Victor Hugo. Victor Hugo s'en est servi. En fait, le mot Quasimodo est formé à partir des premiers mots latins de l'introïte du jour. Quasimodo geniti infantes, alléluia. Quasimodo, quasimodo, quasimodo. Et en fait, c'est parce que Quasimodo, donc de l'œuvre de Victor Hugo, a été retrouvé ce jour-là qu'il a porté ce nom-là. Et donc, voyez bien qu'en fait, c'est resté, c'était quelque chose qui était assez populaire de donner ce nom à ce dimanche-là, et c'est resté jusqu'à donner un prénom, l'un des plus fameux de la littérature française. Et alors, en ce dimanche de Quasimodo, donc passé encore une fois, transposez-vous dans le passé, je me suis dit que j'allais vous faire encore une fois écouter quelque chose de spécifique. Et vous savez que, il y a toujours une petite triche dont je peux me servir, c'est l'orgue mystique de Tournemire. Alors, je vous rappelle pourquoi je peux tricher à chaque fois, c'est parce que Tournemire a écrit les offices de toute l'année liturgique en se basant sur les thèmes grégoriens du jour. Alors, sauf à deux exceptions, près, hein, bien entendu, l'Avent et, bien entendu, le Carême, où là, l'orgue est censé se taire, sauf les dimanches de Gaudete et les Tarés, mais sinon, Tournemire a écrit pour tous ces thèmes-là. Il a écrit plusieurs fractions de la messe, et là, la fraction de la messe que je vous propose d'écouter, pardon, c'est l'offertoire de la messe. Donc l'offertoire, vous souvenez, c'est ce moment bien particulier, qui est très précieux dans la liturgie, parce qu'il marque un temps important, notamment musicalement, parce qu'on passe de la liturgie de la parole à la liturgie eucharistique, et en fait, il faut qu'il y ait une sorte de passage. Alors il y a des offertoires totalement brillants, il y a des offertoires plus intérieurs. Celui-ci est assez intérieur, comme souvent d'ailleurs avec Tournemire, qui est le titre même d'orgue mystique. On est vraiment dans des espèces de hauteur, des sphères vraiment liquides. Moi, je dirais que c'est de la musique très liquide, très évanescente, presque vaporeuse à certains moments. Vous allez vite l'entendre. Le morceau est assez court, hein, cette fois-ci. Alors, si vous arrivez à trouver le thème grégorien, c'est que vous êtes bien fort, donc vous connaissez tous vos thèmes grégoriens. Vous allez le voir, donc ici, bien entendu, c'est forcément caché, comme très souvent. Alors, parfois, les thèmes grégoriens sont bien entendu bien plus développés. Ici, il est bien camouflé et il suit cette volonté de faire de ce moment particulier, celui de l'offertoire, celui du passage entre la liturgie de la parole et celui de l'Eucharistie. Donc, quelque chose, une transition qui se fait tout en douceur et qui, moi, je trouve assez céleste et qui est bien dans le temps, finalement, de cette octave de Pâques. On est dans la résurrection, vous allez voir, il y a des jeux qui sont assez aigus et qui montrent qu'on est dans une logique totalement autre, on n'est pas totalement rattaché à la Terre. N'oubliez pas que c'est ça la force de l'orgue, c'est de faire parfois des sons très graves et parfois des sons plus aigus. Et là, vous avez cette espèce de d'évanescence dans les nuages, l'évanescence de la joie des anges du Christ ressuscité, mais qui là chante avec douceur et avec calme. Voici donc l'offertoire de la messe Quasimodo, de l'orgue mystique de Tournemire. Extraordinaire méditation proposée par Tournemire pour ce dimanche si particulier de Quasimodo. Voilà donc la petite session de rattrapage que je voulais vous offrir, effectivement un petit peu décalée, je vous prie de bien vouloir m'en excuser, mais je voulais que vous aussi vous puissiez non seulement avoir cette petite anecdote sur Quasimodo, et bien entendu la musique qui se rapporte avec. Voilà, nous allons donc continuer avec de la très très belle musique. Là aussi vous allez pouvoir me gronder parce que je vous ai déjà parlé de ce morceau, ça j'en suis persuadé. Mais j'avais très envie de vous en reparler parce que c'est un morceau qui me tient à cœur. C'est un morceau sur lequel on peut retourner, bien entendu, parce qu'au niveau de l'écoute et de l'analyse, bien entendu, il y a beaucoup de choses à dire. Mais c'est également parce que j'ai lu à propos de son compositeur et je voulais un petit peu remettre au goût du jour les choses qui entouraient Anton Bruckner. Vous savez que c'est un de mes compositeurs préférés, je vous en parle assez régulièrement. Compositeur de génie du 19e siècle, de la musique romantique. Il était autrichien et il a été l'un des plus grands compositeurs du monde, l'un des plus grands organistes aussi. En fait, il était surtout extrêmement réputé pour ses qualités d'organiste. Il a été à l'abbaye de Saint-Florian, qui est une abbaye, alors c'est encore visitable largement aujourd'hui, vous allez voir, c'est un orgue absolument gigantesque. Et là-bas, il était extrêmement connu, notamment pour ses qualités d'improvisateur et également d'interprète. C'était quelqu'un qui avait une science infuse sur cet instrument et qui n'a pas ou peu composé pour cet instrument. C'est extrêmement dommage, mais en même temps, s'il a composé pour orgue, on peut le dire, parce que quand vous écoutez sa musique symphonique, eh bien, en fait, on se rend compte que c'est assez organistique, finalement. Des espèces de longues plages sonores absolument énormes qui viennent parfois remplir toute la salle de concert, comme l'orgue remplit l'église. Il y a véritablement une gémilité entre sa façon d'écrire pour la musique symphonique et bien entendu sa musique d'orgue. On peut se poser exactement la même question d'ailleurs pour sa musique chorale. Alors dans une moindre mesure, je vous l'accorde, puisque c'était quelqu'un d'assez fin hein, sur la façon d'écrire, et notamment les chorales que je vais, enfin les œuvres chorales que je vais vous présenter maintenant. La première, c'est le Os Justi, voilà, c'est celle-là où je vous disais, bon, celle-là, vous l'avez forcément déjà vue avec moi, vous savez que c'est une des œuvres que j'apprécie le plus, une œuvre extraordinaire dont voici la traduction. « La bouche du juste annonce la sagesse, et sa langue proclame la justice. La loi de son Dieu est dans son cœur, ses pas ne chancellent point. Alléluia. » Il a rajouté un petit extrait, un Ein Veni David, mais ici qui n'est pas mis en musique dans la version que je vais vous montrer. Il s'agit d'un morceau extraordinaire à plus d'un titre, tout simplement dans son écriture. C'est un morceau qui a été écrit en mode lydien. Pourquoi est-ce que ça nous intéresse ce mode? Alors, j'ai pas envie de vous parler de solfège pendant si longtemps. Il s'agit d'un mode assez particulier parce qu'on l'appelle aussi le mode de fa d'ailleurs. Il est conçu pour être écrit sans aucune altération. Ça, il me semble que je vous l'avais déjà dit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dièse ni de bémol. Et dans un sens, effectivement, qui sort de la musique, si quelque chose n'est pas altéré, il est forcément parfait. Et en fait, quand on parle de la bouche du juste, qui annonce la sagesse, celle de Dieu, et la loi de Dieu, qui doit être la loi parfaite, eh bien, il y a forcément une accointance entre le fait qu'il n'y ait pas d'altération dans la partition et bien entendu, pas d'altération dans la loi divine. C'est une musique qui est assez extraordinaire, qui est composée de façon très simple, sauf à deux moments où les voix se divisent avec des passages extraordinaires et un petit fugato au milieu, une petite fugue. Alors je vous ai parlé récemment de la fugue, hein, souvenez-vous, fugare ça veut dire s'enfuir, presque aller de l'avant en italien, et il y a cet aspect de la... Bon, c'est pas une vraie fugue dans les règles de l'art, mais ce fugato, c'est-à-dire cette sorte de fugue qui se fait avec les thèmes qui se courent après et lingua, etc., sur la langue qui proclame la justice de Dieu, et il y a cet aspect d'enchère qui arrive pour parler de cette loi parfaite qu'il a et reconnue parfaite également d'un point de vue musical parce que les voix se divisent et on passe de 4 voix à 8, tout se multiplie par 2 et qui retourne. Et à la fin, il y a ce final extraordinaire avec cet Alléluia grégorien, tout simple. On se demande ce qu'il vient faire là, et là c'est toujours le grand... le moment quand on le dirige, on se dit est-ce qu'on le fait ou pas cet Alléluia? Et finalement, surtout quand on a le texte qui suit derrière du In Veni David, on se dit qu'il faut le faire. Alors évidemment, Bruckner l'a rajouté par la suite, mais là aussi ça en dit très long sur l'humilité du compositeur qui va s'effacer derrière un thème connu, celui de l'Alléluia, et en plus qui accepte de dire que derrière la simplicité de cet Alléluia, il y a plus finalement que la musique extraordinaire qu'il a composée juste avant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve que c'est une très belle marque d'humilité. Ça en dit long également sur Bruckner, je vous disais que j'avais lu un livre à propos de lui, et son humilité, c'était quelqu'un qui était extrêmement attachant, je le dis. En fait d'ailleurs, son bicentenaire, c'est-à-dire on parle beaucoup de Gabriel Fauré, mais pensez à Bruckner, et, c'est aussi son année 2024. Donc pensez-y, écoutez de Bruckner, ses symphonies, et bien entendu sa musique chorale et sa musique sacrée. Et Bruckner, il avait une vie très atypique. En fait, c'était un garçon de la campagne, il ne s'est jamais départi de son accent, il était toujours extrêmement mal habillé. C'était un très bon vivant, il allait toujours à l'auberge, il adorait la saucisse. Voilà, c'était un type bon vivant. Et alors derrière, il est capable d'une musique d'une très très grande délicatesse, mais il avait cet aspect-là. Alors il avait le tutoiement facile, donc tout le monde se moquait de lui, il était un peu gauche, il n'était pas très habile. Et alors bien sûr, quand il est allé à Vienne, dans la haute société viennoise, c'était un petit peu tout le monde se moquait de lui. Et heureusement, il y a certaines personnes qui l'ont pris sous son aile. Le plus fameux d'entre tous, c'était bien entendu Wagner, qui se reconnaissait dans cette musique assez immense. Mais bien entendu, vous savez, il y avait une grande souffrance chez Bruckner de ne pas être reconnu à sa juste valeur par Wagner, parce que Wagner parlait plus de 30 secondes de quelqu'un d'autre que de lui-même, c'était très compliqué. Et donc voilà, il y avait cette espèce de volonté de reconnaissance et en même temps de profonde humilité, et bien entendu d'humilité face à Dieu. Il signait, comme Bach d'ailleurs, ses partitions, qu'elles soient profanes ou pas, de l'acronyme SDG Soli Deo Gloria. Découvrez ou redécouvrez donc cette Os Justi d'Anton Bruckner.
Thank you.
l'immense délicatesse d'Anton Bruckner dans ce Os Justi absolument extraordinaire. Vous entendez là aussi le génie de cet homme, le génie de ce compositeur dont nous souhaitons aujourd'hui l'anniversaire. C'est quelque chose d'extraordinaire de se dire que cet homme qui a une vie si difficile, il a eu toujours des problèmes d'argent, je vous parlais effectivement de sa maladresse, de ses vêtements, etc., capable d'une telle finesse. C'est extraordinaire de se dire que là aussi l'Esprit Saint a très probablement trouvé un grand serviteur pour publier la louange de Dieu. Et on continue avec le Locus Iste, l'un de ses autres grandes œuvres chorales, assez court, avec un texte très court. Le Locus Iste, c'est un chant très particulier parce que c'est celui qui est donné lors de l'anniversaire d'une dédicace d'une église. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est des références à plusieurs moments, notamment dans l'Ancien Testament, pardon, où il y fait référence à un lieu sacré ou à un lieu que Dieu visite. Notamment, par exemple, lors du buisson ardent, puisque là même, il est dit que « retire tes chaussures de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte », ou également dans l'histoire de Jacob, « l'Éternel est en ce lieu et je ne le savais pas ». En fait, il y a cette espèce de sacralisation de l'espace qui se veut dans le texte, dont voici la traduction. « Ce lieu a été créé par Dieu, un sacrement inestimable, il est irréprochable ». Une idée donc de perfection dont vous allez tout de suite saisir le sens parfait quand vous allez entendre cette œuvre. Pour moi, c'est une œuvre chorale, mais ça pourrait être un quatuor à cordes, avec deux violons, un alto et un violoncelle. Vous allez voir, c'est de la musique, presque de la musique de chambre, de la musique extrêmement intimiste. Là, on n'est pas dans un Dieu qui va se vouloir trop présent, trop démonstratif. C'est dit avec une immense poésie, la poésie d'Anton Bruckner. Écoutez et appréciez donc, goûtez à cet extraordinaire Locus Iste.
Thank you.
C'est avec ce sublime accord parfait final, très sobre, très simple, mais en même temps si pur, qu'Anton Bruckner décide de terminer cet extraordinaire locus isté, là aussi de la très grande et très belle musique. Mesdames et messieurs, voilà pour ma proposition musicale de ce jour et donc un petit peu de celle de la semaine dernière. Veuillez encore m'excuser pour ce problème un petit peu technique. Et j'essaierai de bien sûr ne pas reproduire cette erreur. En tout cas, j'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Moi, il me reste à vous dire à la semaine prochaine ou, pour les plus chanceux d'entre vous, à samedi prochain, puisque le 20, je vous rappelle, le 20 avril à 18h à la chapelle des Carmélites, je dirigerai la Schola Cantorum pour le Via Crucis de Franz Liszt. Venez, parce que c'est de la très très belle musique. Il y aura un harmonium d'art, Emmanuel Pellapra à l'harmonium d'art, de la musique extraordinaire là aussi. C'est un concert gratuit. Donc venez nombreux, venez nous soutenir et venez écouter de la belle musique liturgique. C'est donc le 20 avril à 18h à la chapelle des Carmélites. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée et je vous dis à bientôt sur Point d'Orgue.